Vous êtes sur Dojo Radio, il est 21h et c'est l'heure du Dojo Bar.
Bar.
Voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Méduse.
Bonsoir Mortel.
Et bonsoir à notre invité Zegema.
Bonsoir à tous.
Salut Zegema.
Au sommaire de ce soir, donc, nous allons d'abord parler de la Wii Mini.
Oui, exactement.
La fameuse.
Wii Mini dans notre open bar.
Open bar qui sera
la première partie d'émission au lieu d'être la deuxième comme initialement prévu. Et ensuite, on refera le monde en binous en parlant du Doritos Gate, l'affaire Doritos qui a fait du bruit dans la presse jeux vidéo anglo-saxonne et puis après par chez nous aussi. Mais avant tout ça, l'ouverture du bar.
Voilà, on va faire un petit tour de table de l'actualité. Sachant qu'on a chacun choisi un petit sujet d'actualité différent. Qui c'est qui est chaud pour commencer là ?
I begin. Fight.
Oh là là. Alors, Méduse commence.
Il est chaud.
Je sais pas de quoi il va nous parler, mais Méduse commence.
Si tu le sais très bien, menteur.
Oui, je le sais très bien parce que j'ai le conducteur, mais j'essaie de maintenir le suspense.
Oui, chers auditeurs. Mais avant toute chose.
Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cette grande tradition.
Quand même, quand on ouvre le bar. Hein. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la Team Meat de Edmund McMillan et Tommy RFNS, qui sont les deux donc les deux développeurs de la Team Meat,
les Laurel et Hardy du jeu vidéo,
exactement, qui sont très connus pour leur franc-parler mais surtout pour leur jeu Super Meat Boy sorti en 2010 sur Xbox Live Arcade et PC et qui avait connu une pré-version en 2008 sous forme de jeu Flash, vraiment un très très chouette jeu où il y a plein de challenges et je sais que Zegema y a joué tout récemment parce que Steam est un espion.
Oui,
c'est pas Zegema.
Ah, il est voilà. Espion, ce que je fais.
Et ils ont récemment été interviewés par le magazine, enfin par le site web Eurogamer. Et au site web Eurogamer, vu qu'à la base le premier Meat Boy était prévu pour oui, mais qu'il a été tout bonnement annulé au profit de versions Steam et Xbox Live Arcade, ils ont dit bon, vous savez, nous on est en train de faire un jeu qui s'appelle New Genix. À la limite, on voudrait bien le mettre sur une console Nintendo, mais vu le sale coup qu'on a vécu par le passé, bon allez, on veut peut-être bien développer, mais seulement si Nintendo accepte de mettre Meat Boy dans son prochain Smash Bros. Mais attention, on est sympa, hein. On donne Meat Boy pour le prochain Smash Bros, mais on le donne gratos, hein. On veut même pas de thunes en échange. Et là, peut-être qu'on fera un petit jeu.
Voilà.
Je trouvais ça tellement énorme et hallucinant, parce que
certes, c'est
un personnage sympathique, mais de là le caser dans un Smash Bros, alors que c'est quand même une licence relativement nouvelle, elle a pas 3 ans. Je trouvais ça assez énorme.
C'est vrai que Smash Bros, c'est quand même... Enfin, c'est plus l'histoire du jeu vidéo qui est résumée à l'intérieur, même s'il n'y a pas beaucoup de personnages autres. Mais c'est surtout qu'il n'y a que des personnages de développeurs japonais.
Oui.
Il n'y a que les personnages étrangers, c'est Sonic, Snake, je crois que c'est tout.
C'est tout, c'est les seuls, à ma connaissance, qui sont...
C'est vrai.
Auxquels,
et Mario,
sont hors
qui est un personnage hors Nintendo aussi,
ouais, voilà.
Complètement.
Tout à fait.
Ouais.
Et puis, quand tu dis histoire de jeux vidéo, c'est vrai que les personnages invités ont un background, ou en tout cas une série de jeux derrière. C'est vrai que voir apparaître Super Meat Boy...
C'est couillu,
au bout de seulement
oser,
un
quoi.
Jeu.
Ouais, c'est couillu. Attends, mais c'est pas tout, parce que derrière ça, les mecs, ils disent, Microsoft, probablement qu'on mettra notre jeu sur leur console. Alors, mais par contre, Sony, Nintendo, bof bof, pour Nintendo, voilà, ça, c'est nos conditions. Mais en plus de ça, il faut que vous nous offriez les kits de développement, parce que bon, un kit de développement, ça coûte cher, quoi. Tu vois? Donc, ouais, ils sont quand même assez gonflés.
Les mecs se font pas chier.
Et dans la foulée, ils ont une vision assez particulière du futur du jeu vidéo. Pour eux, ils se disent que bon, le marché console par rapport au marché des smartphones, ça vaut que dalle. Donc, les jeux, on pense que l'avenir sera sur les supports sans boutons, c'est-à-dire sur les tablettes et les smartphones, et que finalement les consoles, ce sera des supports marginaux pour jouer.
Alors, va jouer à voilà. Super Meat Boy sur une tablette.
Alors, on sait pas trop évidemment ce qui.
C'est de l'ironie, je pense. Hein,
je pense que c'est même du suicide.
On savait pas trop ce qu'ils avaient consommé avant l'interview par Eurogamer, mais toujours est-il qu'il y a peu de chances qu'on voit, à mon avis, Meat Boy dans Smash Bros. Voilà, c'était mon petit...
ça serait tellement beau, mais rapport. Ouais.
Zegema, tu
imaginez quand même, notre gueule, si à l'E3, on voit Meat Boy dans Smash Bros.
Mais tout le monde va être fou, ça va être trop bien.
Ouais, c'est ça. Voilà.
Alors Zegema, t'avais choisi un sujet d'actualité sur Tomb Raider et Crysis 3, si je dis pas
Oui,
bêtise.
Tomb Raider et Crysis 3, alors à la fois, c'est à la fois en fait un coup de cœur et un coup de gueule. Coup de cœur parce que Tomb Raider ressuscite d'entre les morts, si on peut dire. Tout le monde a en tête le dernier épisode de la PlayStation 2 qui était sorti en 2004, qui était une catastrophe, et peu de monde s'est essayé finalement, ou en tout cas se souvient de la série qui a été reprise ensuite par Crystal Dynamics, qui avait fait trois jeux, qui étaient donc Tomb Raider Legend, Anniversary, Underworld, qui était très bon. Avec encore un côté plateforme, et c'était vraiment chouette à jouer. Et donc ce côté plateforme a été un petit peu délaissé pour revenir finalement aux origines de Lara Croft. Lara Croft qui a du coup rajeuni, qui n'a plus que 21 ans, et on suit l'histoire de l'héroïne.
Ouais, du coup, elle est passée de MILF à teen.
Elle est passée de MILF à teen.
Encore quelques années de moins, elle est dans ma cave. Hein.
Elle a bien prévu, hein.
Évidemment.
Il est con. Donc voilà. Et pour m'y être essayé un tout petit peu, c'est vraiment pas mal. Comme je disais, on a un peu abandonné le côté plateforme pour se rapprocher beaucoup plus du côté d'Uncharted, qui est pas un mauvais jeu du tout, même. Donc un peu plus scénarisé, quelques parties de chasse.
Ils ont fait un jeu de casu, quoi.
Un jeu de casu, je te dirai ça quand j'aurai terminé. Mais
c'est vrai que le retour, ça, c'est bon en général.
À part peut-être les deux premières heures où apparemment ça crie beaucoup, oh my god, parce qu'il y a tout plein de crasse.
C'est bien ce que je disais, on est vraiment passé dans la catégorie teen, hein, je veux dire.
Ouais, je pense que c'est voulu, c'est fait exprès. Donc un tuto un peu géant de 2 heures pour présenter un peu tout ce qui fait le nouveau gameplay de ce Tomb Raider, puisqu'on fait un peu table rase de ce qui a été fait auparavant. Mais à part ce tuto de 2 heures, après c'est pas mal. C'est pas encore un monde ouvert, mais c'est suffisamment grand pour pouvoir s'éclater pas mal quand même.
Ouais.
Voilà, donc le coup de cœur et le coup de gueule, donc c'est Crysis 3, où j'ai envie de résumer la série par un seul mot. Dramatique.
Ah, moi j'aurais pu tenter un autre mot, aïe ma carte graphique.
Mais en fait, voilà, ça ne se résume qu'à ça. Il faut croire que Crytek ne fait des jeux que pour vendre le CryEngine, en fait.
Mais tu penses qu'ils sont payés par Nvidia ?
Ouais.
Ça, c'est triste.
Ouais, c'est des Allemands, ils sont prêts à tout. Mais à part ça, alors on est déjà à l'épisode 3. L'épisode 1 avait mis à genoux toutes les meilleures configurations du monde à l'époque, en 2007.
Là, clairement.
Mais ça restait un très bon jeu.
Il reste quand même assez compliqué à faire tourner encore aujourd'hui. Hein.
Le premier, ouais.
Le premier, c'est pas avec le bas de gamme que t'arrives à le faire tourner. Il a
non,
quand même
ça
un certain
c'est
âge.
Clair. Ouais, c'est clair. Ça a été optimisé. Mais il était fait que pour PC. Et avec Crysis 2, donc forcément, on veut faire plus de ventes, donc on s'ouvre aux consoles. Donc on fait un jeu un petit peu moins optimisé de base. Mais c'est vrai que la version... haute résolution avec le pack de textures, etc., qu'ils ont sorti un petit peu après.
Ça bute la gueule quand même.
Ça bute la gueule, ça arrache, c'est vraiment énorme. Mais côté gameplay, on est passé donc de un monde semi-ouvert, on va dire, puisqu'ils avaient fait Far Cry, donc ça y ressemblait dans le 1, à quelque chose de plus en plus couloirisé. Avec quelques arènes quand même pour pouvoir se faire plaisir et tenter différentes tactiques.
Ouais.
Mais
il y a quand même plusieurs approches possibles.
Il y a quand même plusieurs approches possibles, mais il y a quand même, une fois que tu as quitté cette arène, tu passes par un couloir, ou une rue, ou un égout, ou je sais pas, et tu passes à la suivante. C'est un peu de tendance Call of Duty sans...
Ouais, c'est ça. Mais quand même moins fermé, le 2 était quand même moins fermé que Call of Duty, parce que Call of Duty, c'est quand même l'horreur.
Oui.
Et moi, pour avoir fait une partie du solo de Crysis 2, je trouvais que c'était quand même... Enfin, c'est quand même bien foutu, quoi. Le premier est totalement ouvert.
C'est bien foutu, les potes.
C'est bien foutu, bordel de shit. Le premier était vraiment bien ouvert, tandis que le deuxième, c'est vrai que c'est déjà un truc un peu plus linéaire. Après, moi, le 2, j'ai bien kiffé le multijoueur, je trouve... L'équilibrage et la dynamique en multijoueur, c'est hyper difficile à jouer parce que les mecs sont assez fous. Enfin, moi, je suis arrivé sur le tard sur le multi du 2. Mm-hmm. Mais une fois que tu commences un peu à accrocher et connaître les niveaux, il y a du gameplay à revendre. C'est vraiment, je pense qu'il n'y a aucun jeu qui procure la même expérience du fait qu'il y a la combinaison qui permet de faire des super sauts, tout ça, genre de trucs, de se camoufler. Et c'est assez intéressant à jouer quand même.
D'accord. Ok, le multi j'avais pas fait. Je voulais terminer par je sais plus quoi. Tu m'as coupé.
Ouais.
Et donc le 3, le Crysis 3.
Oui, bah oui, le 3, évidemment. Moi, je parle de la série, mais tout à fait, le 3. Donc, pour faire un petit récapitulatif, on est 20 ans après le 2. Et il y a une espèce de complot avec une société, avec des super soldats qui sont un peu contre la race humaine, on va dire. C'est très, très résumé, très... Hein, mais voilà, donc c'est, on est passé des Nord-Coréens à une équipe qui s'appelle le CEL. Qui a mis New York sous cloche.
Alors je balance un petit spoiler, dans le 4 ce sera le poivre.
J'ai pas suivi.
Ce jeu de mots est officiellement contrôlé par le dojo.
Le poivre.
Ah d'accord, c'est vrai, le poivre. Donc ils ont mis New York sous cloche, et il s'est passé 20 ans depuis l'invasion extraterrestre à New York, donc la végétation a eu le temps de pousser, et ils ont rien trouvé de mieux chez Crytek que trouver comme arme technologique un arc.
Oui mais c'est la mode. C'est la mode.
Ouais, dans Tomb Raider, il y a des arcs.
L'année dernière, le 3, il y avait des arcs dans tous les jeux.
Ouais.
Tous.
C'est vrai.
Assassin's Creed 3, Tomb Raider, Crysis 3, Far Cry, je sais pas combien, machin. Il y avait des arcs partout.
Tu crois
que. Mais là, c'est un super soldat avec une super armure. Tu vas pas lui foutre un arc. En plus, il est super cheaté parce que tu tires un coup. En pleine tête, il est mort, tu récupères ta flèche et tu perds même pas ton invisibilité de ta combi. Donc, ce qui fait que bah, tu peux te balader tranquille. J'exagère un petit peu, mais par rapport au 1 où on a vraiment que quelques secondes en invisibilité pour essayer de se cacher derrière un arbre et essayer de buter quelques Coréens, c'est quand même beaucoup plus facile. Et je terminerai juste parce que je sens que tu veux réagir, Méduse.
Du tout.
Non, c'est surtout qu'il faudra qu'on finisse. J'ai un truc à faire encore et après on fait une petite pause musicale. Donc.
D'accord, bon, bah, boîte à bière en attendant. Par la durée de vie, parce qu'il y a des gens qui ont réussi en mode normal à le finir en à peu près 3 heures sur PC.
Ça va faire des beaux speedruns, ça.
Ah ouais, ça va faire des beaux speedruns. Ouais, déjà que le 1, ils avaient réussi à pas mal le raccourcir.
Alors, donc, en parlant de speedrun, alors tu remarqueras quand même cette transition.
La transition,
j'ai fait senti venir. C'est totalement voulu.
J'ai senti venir.
C'était complètement voulu, tout le monde l'a senti
alors,
venir.
Alors, avant que tu parles de speedrun, je le dis en speed. Le Multicrisis 3, c'est à peu près le même que le 2, parce que j'ai pu essayer l'alpha. Par contre, le jeu, il met vraiment à genoux le carte graphique. Voilà.
Voilà, c'est ce que je disais. Ils veulent vendre du CryEngine.
Exactement.
C'est très très beau.
C'est la jungle, mais voilà. La transition.
Alors la jungle, d'accord. Voilà la transition, magnifique. Donc durant ces deux dernières semaines, a été validé, alors le run date d'un peu plus longtemps, mais le speedrun officiel a été validé il y a peu de temps sur Speed Demo Archive, a été validé le speedrun de Donkey Kong 64, que vous connaissez forcément tous.
Absolument.
Je l'ai pas adoré, fini, mais oui.
J'ai adoré.
Voilà. Donc Donkey Kong 64 a été fini à 101%, donc le jeu complet, en 7h et 14 minutes. Donc c'est un speedrun, oui c'est un speedrun 100%, c'est-à-dire que le mec a récupéré absolument tous les objets, en 7h et 14 minutes en single segment, donc en une seule et unique session de jeu.
C'est quand même ultra balèze.
Voilà, alors c'est ultra balèze, moi je voudrais quand même saluer l'exploit du speedrunner qui a réussi à jouer plus de 3 heures d'affilée à ce jeu sans avoir envie de balancer sa manette dans la télé.
Oh,
c'est quand même un
souvenir.
Sacré exploit.
Surtout à l'heure
actuelle.
Parce que
c'était quand même sacrément chiant. Parce que les gens se rendent pas forcément compte, mais le finir à 101%, ça veut dire qu'il faut ramasser la moindre banane.
Ouais.
Avec les 5 personnages.
Alors c'était pas évident, moi je l'ai fait à 101%, j'ai dû mettre 70 heures, quoi, tu vois.
Voilà, donc c'est quand même complètement gueudin.
C'était un speedrun ou un tout là, c'est speedrun.
Non, c'est un speedrun, un vrai speedrun. Un mec qui a passé 7h et quart devant sa console.
Ah, effectivement, performance.
Performance, ouais. Donc le speedrunner s'arrête pas là. Hein. Son prochain exploit, ça va être de regarder toute la saga Twilight sans se pendre. Voilà, très très compliqué.
Moi je pense que là, il y arrivera pas.
Spoiler, je l'ai fait.
Ah oh, merde.
Je suis encore là.
Oh là là.
Un balèze.
C'est la honte.
Je sais.
Voilà,
on va faire
une première petite pause musicale, messieurs. Je ne me souviens plus du tout de ce que j'avais prévu comme pause musicale.
Bah normal.
Parce que je ne l'ai pas noté dans le conducteur.
Que la musique soit bonne.
C'était pas Mario Galaxy.
Il me semble que c'est de la bande originale de Super Mario Galaxy. Ça doit être Gusty Garden Cloud.
Merveilleux.
Gusty Garden Palace, si je dis pas
mal. Voilà. Un voyage dans les nuages.
Un voyage dans les nuages. Et donc, on s'écoute ça tout de suite. C'est probablement le meilleur morceau de la BO de Super Mario Galaxy. Profitez-en bien. Et nous voilà de retour, donc c'était absolument pas Super Mario Galaxy.
Voilà, on peut ressortir la bière, ou continuer.
Santé.
C'était absolument pas Super Mario Galaxy, c'était donc Oz de Here Come the 8-Bit Empire, extrait de l'album Exit Empire. J'ai déjà passé du Oz, je crois, à l'antenne la dernière fois. C'est un petit Norvégien qui fait des trucs très 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 sympas.
En tout cas, un petit Norvégien, beaucoup. Tu veux dire un nain ?
Non, non, c'est un homme normal, je pense, en tout cas, c'est pas un... Voilà. Donc, l'open bar, alors du coup, tout le monde se resserre une petite binouze, ça tombe bien, et on va parler de la Winnie.
Exactement.
Alors, qui c'est qui veut faire le rappel des caractéristiques de la machine ? Je crois que t'étais parti, Méduse.
Oui.
Non, c'est moi qui passe. Non, c'est moi qui passe, c'est moi qui passe.
Est-ce qu'on doit dire ce que la console fait ou ce que la console ne fait pas ?
Oh, dis ce qu'elle ne fait pas, bah, parce que c'est tellement...
Alors la Wii Mini, c'est une Wii...
Notoire, vas-y.
Rouge, plus petite, qui ne peut ni lire les jeux GameCube, donc on peut pas brancher non plus de manette GameCube.
Alors, il n'y a pas de manette GameCube, il n'y a pas de port carte mémoire, mais c'est déjà le cas des Wii qui sont vendus depuis un an et demi, je crois.
Parce qu'il y a
l'édition familiale qui est vendue dans le commerce.
Noirs, voilà, l'édition casu.
L'édition casu. Je
veux dire, après un moment, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus de gamers qui achetaient la Wii, donc ils ont déjà jarté les bonnes Wii des rayons. Ils ont foutu la décharge ou les ont envoyés en Chine, je sais pas.
Il n'y a plus effectivement de port GameCube, il n'y avait déjà plus de porte-carte mémoire GameCube et de port GameCube pour brancher les manettes GameCube, donc.
Voilà. Et il n'y a pas d'internet non plus.
Physiquement plus de Wi-Fi.
Voilà.
La puce a été enlevée complètement.
Plus de fonctionnalités en ligne, quoi.
Ce qui coûte quand même pas le plus cher, mais bon.
Mais attention, ils offrent quand même avec une Wii Mode Plus et un Nunchuk. Ouais. Rouge aussi.
Alors, ah non, mais attends, t'as oublié un truc aussi. Il n'y a plus de port pour la SD card.
Plus de port pour les SD qui servait déjà pas grand chose à part pour le Tipiak.
Et voilà, bah ça servait pour le Tipiak. Le problème, c'est que celle-là, elle est pratiquement intipiakable du coup.
Et c'est donc, la première console sécurisée Nintendo en fait. Voilà.
Il ne reste qu'un seul port USB et il ne sert qu'à alimenter. C'est-à-dire qu'il est, il n'est pas relié en réalité à la machine, il y a juste une prise de courant. Quoi. C'est une prise de courant USB.
Ouais, c'est 5 volts, ouais.
Donc tu peux pas brancher de disque dur, tu peux pas brancher l'adaptateur Ethernet.
Tu peux juste recharger ton lecteur MP3 en USB.
Et encore, ton téléphone.
Et... Ouais.
Au bout de 12 heures.
Ou ta manette Wii U, comme ça, ton gamepad.
Ouais.
Alors, je tiens quand même à faire une petite précision maintenant qu'on a précisé un tout petit peu les détails techniques. C'est pas la première fois que Nintendo fait une version redesignée de d'une console en fin de vie.
C'est voilà. La troisième, je dirais.
Alors moi, j'aurais dit la quatrième. Donc
la quatrième,
j'en
ai loupé une.
Il y a eu la NES 2.
Oui.
Je suis pas sûr qu'elle soit sortie en Europe, celle-là, d'ailleurs. Je sais qu'elle est sortie aux États-Unis.
Je crois qu'aucune n'est sortie en Europe.
Je sais qu'il y en a une qui est sortie en Europe. Donc la NES 2, en fait, c'était une version redesignée de la NES avec un chargement par le dessus au lieu du chargement par l'avant, et qui avait comme particularité effectivement d'avoir un truc en moins, mais qui était plutôt un avantage, c'est qu'il n'y avait plus de puce de contrôle de région.
Ah oui.
Qui fait qu'on pouvait lire des jeux de n'importe région sur cette NES là.
Ah mais c'est la NES ultime en fait.
Alors pas tout à fait, parce qu'en réalité, quand t'achètes une NES américaine, si t'essaies de faire tourner un jeu PAL, il tourne en accéléré.
Ouais, donc c'est du 1.2.
C'est du 50 Hz, donc ça marche pas. Mais néanmoins, tu pouvais jouer à des jeux. Alors, des jeux japonais, tu pouvais pas y jouer non plus, mais par exemple, les jeux non licenciés, tu pouvais y jouer sur ta NES. Voilà. Et les jeux européens, tu pouvais aussi y jouer sur ta NES. Et il y a quelques jeux. Techniquement, les jeux japonais, tu peux pas à cause de la forme de la cartouche. Mais si tu virais le capot de la NES 2 et que tu branchais la cartouche de Famicom,
ouais,
ça marchait quoi.
Tu pouvais faire un petit peu de charcutage.
Tu pouvais tenter un truc avec une scie à métaux et tout ça.
Il y a eu la... Avec une grue. Ou...
Non, mais c'est important. Il y a eu la Super Nintendo Junior.
Voilà, celle-là que je pensais.
Alors, celle-là, elle est sortie en Europe, parce que moi, quand j'étais petit, je l'ai vue en magasin.
C'est
je suis certain qu'elle est sortie en Europe.
D'accord, je croyais qu'elle n'était pas sortie justement.
Donc il y a eu la Super Nintendo Junior, la Super Famicom Junior, qui sont pareil une version redesignée de la Super NES, mais qui cette fois-ci avait pas beaucoup de trucs en moins. Je vois pas trop ce qu'elle avait en moins d'ailleurs. Rien. Elle était juste un peu plus petite.
Oui.
Et pour moi, la N64 Pikachu était une version redesignée de fin de vie de console.
Alors, ouais, redesignée, mais pas diminuée.
Ouais, voilà, au niveau volume, même c'était plus important.
Ouais, il y avait la croissance de la Pokéball et des oreilles de Pikachu, là, je me souviens.
Ouais, je sais qu'il fallait appuyer sur sa Pokéball pour que ça envoie du pâté.
Non, mais quoi.
Et encore, du pâté.
Ça envoyait du pâté N64. Hein,
voilà. Voilà.
Ah, voilà, donc c'est pas la première fois. Pour moi, la seule console qui n'avait pas subi de redesign de fin de vie, c'était le GameCube.
La GameCube, ouais. Voilà. Exact.
Mais bon, étant donné qu'elle s'est retrouvée à 100€, 100$ très rapidement...
Ouais.
C'est vrai que c'était pas forcément... Enfin, une version encore plus low cost, ça aurait été un peu compliqué à faire.
Exact, et 100€, c'est d'ailleurs le prix de la Wii Mini.
Ah, mais c'est une transition de malade.
Une transition de malade. Et elle sort dans 10 jours, dans 9 jours maintenant. Elle sort le 28 mars.
Tout à fait.
Et jusqu'ici, elle n'est sortie qu'au Canada. On sait pas pourquoi.
Parce qu'elle est rouge.
Parce qu'elle est rouge. Voilà. Ah, mais je sais pas si, elle était, si c'était parce qu'elle était rouge, il aurait sorti en URSS ou je sais
elle,
pas.
Elle a aussi une autre petite particularité dont on profite. Ouais. Elle a aussi une autre petite particularité dont on n'a pas parlé, c'est qu'il n'y a plus de manche disque. Donc il y a peut-être moyen qu'elle soit beaucoup plus silencieuse.
Ce que j'allais dire. Ouais.
Ah oui.
Tout ce qui a été enlevé, il y a aussi le manche disque. C'est juste un c'est petit une
console,
clapet.
Voilà, c'est un console à chargement par le dessus, comme la PlayStation première du nom ou la PS2.
De toute façon, plus silencieuse, elle sera plus silencieuse parce que je sais pas trop. Qui va l'utiliser, quoi. Les collectionneurs vont l'échapper, ils vont la foutre dans un coin. Après le reste, je vois pas trop. Hein.
Bah, c'est surtout le fait, en fait, les consoles redesignées qui sont arrivées après la fin de vie, surtout la NES et la Super NES Junior, c'était parce qu'il y avait encore des jeux qui sortaient.
La NES,
il y en a qui disent, au niveau jeu,
les mauvaises langues disent que la Wii n'est pas en fin de vie, la Wii est enterrée depuis 2 ans. Donc, mais c'est vrai que la NES 2, elle est quand même sortie, j'ai pris mes renseignements, en octobre 93, il y avait quand même beaucoup de jeux qui sortaient, quoi. Faut quand même...
Ouais, mais sur certains marchés, enfin, je crois qu'il y a un Kirby qui est sorti en 93, le Kirby est sorti en 93 d'ailleurs, mais il y a quelques jeux encore qui étaient sortis.
Oui, il y a quelques jeux qui sont sortis.
La Super NES, je crois qu'il y a encore un Kirby qui était sorti en 98, il me semble. Avec un Rockman, les Rockman X2, enfin, je dis peut-être une bêtise, mais il y a quelques jeux qui sont sortis entre 96 et 98, alors qu'on était déjà passé à la N64 et à la génération 32 bits PlayStation, etc. Donc là, il n'y a pas eu de version GameCube, là, il y a une Wii Mini, avec, c'est vrai, des jeux qui ne sortent pas.
Ils ont passé en gamme select Mario Bros, New Super Mario Bros, c'est un autre jeu aussi, Skyward Sword, qui est passé en gamme select pour la sortie de la Wii Mini, quand même, quoi.
Ouais, mais enfin,
c'est des nouveautés.
À part pour le collectionneur,
ouais, voilà, exactement.
À part pour le collectionneur, parce que je dois reconnaître, moi personnellement, le design, je l'aime bien. Alors, c'est personnel, je sais qu'il y en a qui trouvent ça horrible.
Le design, j'aime bien.
T'as le droit d'avoir des Gucci, attends.
Le but, c'est d'avoir des goûts de chiottes.
Ouais.
Donc, moi, le design, je l'aime bien, mais c'est pas pour ça que je vais l'acheter. Je veux dire, c'est vraiment la console useless au possible. L'objectif, c'est de faire un truc pour le très grand public. Donc, c'est vrai qu'avec un prix de 100€, qui est un prix d'appel quand même super raisonnable, une ludothèque d'occasion, c'est-à-dire tu vas dans n'importe quel magasin et tu chopes plein de jeux d'occasion faciles pour toute la famille et tout ça, c'est pas trop mal. Mais rien que le fait, par exemple, qu'il manque une Wii Balance Board. Tu te coupes déjà d'une grosse partie du marché.
Faut l'acheter à part, quoi. Faut l'acheter à part. Moi, je me demande si tout simplement ils ont pas voulu se positionner comme la console de salon la moins chère en vente actuellement, tu vois. Vu que la 360 est la moins chère dans sa version à poil à peu près, ils se sont peut-être dit, faut qu'on positionne
une console encore moins chère,
vraiment ultra accessible.
Est-ce que ça va faire du chiffre?
Je pense.
Apparemment, volume en tout cas.
Apparemment, au Canada, ça a fait un petit peu de volume quand même.
Un petit peu de volume. Comment? Ce que j'ai cherché.
Il me semble que c'est 320 000 ventes.
Ah ouais.
Si je dis une connerie, vous avez le droit de me flageller. Pour me flageller, donc vous pouvez le faire sur le compte Twitter du dojo. NintendoJo.fr, vous pouvez le faire par mail dojobar@nintendojo.fr ou vous pouvez le faire sur le chan du dojo qui on peut s'y connecter très facilement sur irc.nintendojo.fr. Donc voilà.
Tu peux pas donner ton adresse comme ça, on va directement
ton adresse perso là.
Voilà, ouais. Je peux donner le numéro de portable de Méduse, méfie-toi.
Oups.
Voilà, donc. Non, mais plus sérieusement, l'intérêt il est quand même. Enfin, je sais pas, j'imagine que l'intérêt est quand même, même pour ces gens-là, super limité.
Mais attends, surtout qu'il y a la Wii U qui vient de débarquer.
Alors après, il y a une autre théorie, j'ai lu ça quelque part sur un forum, c'est les mecs qui disaient, de toute façon, entre le design de la Wii et le design de la Wii U sont tellement proches que Nintendo avait intérêt à redesigner une console pour bien les différencier. Je sais pas si vous adhérez à ce truc-là, parce que j'ai pas vu de com pour la Wii Mini encore.
Bah écoute, moyennement, parce que quand même, de ces trois consoles, enfin, si tu prends la Wii Mini, la Wii et la Wii U, c'est trois consoles qui s'appellent Wii quelque chose. Je crois que, de toute façon, les gens qui, enfin nous on connaît donc ça va, on sait ce que c'est Nui Mini, mais les gens qui savent pas qu'ils veulent une console et qui se disent ah je vais acheter une Wii pour mon gosse, bon il va avoir Wii Mini, Wii U et Wii machin, il y a des chances qu'ils prennent la moins chère quoi, tu vois. Donc à part embrouiller les gens ou les entuber avec de la mauvaise merde, je sais pas trop quoi. Je comprends vraiment pas non plus le positionnement Nintendo, que ce soit pour qu'est-ce que ça apporte à Nintendo, qu'est-ce que ça peut apporter aux gens. C'est lugubre tout ça.
Est-ce que la Wii tout court est en fin de vie complète au niveau fabrication? Il faut voir ça aussi. Est-ce qu'ils disent bon, on n'a plus envie de la fabriquer, on va faire que la Wii Mini et puis voilà.
Ouais, ou alors ils ont besoin de couler des stocks de composants.
Ils ont besoin de couler des stocks de composants. Qu'est-ce que c'est quoi? Si elle est en fin de vie, à la limite, tu dis voilà, on arrête la production, on continue à produire les pièces détachées pour le SAV et puis c'est réglé quoi.
Ouais, ou bien ils font une édition spéciale pour les pays émergents, je sais pas, comme l'Afrique du Sud ou le Brésil quoi.
Voilà, pour l'instant c'est pas prévu pour les pays émergents. C'est vrai que la Super NES Junior, par exemple, est sortie au Brésil en même temps qu'aux États-Unis. Donc c'était vraiment... Voilà, l'objectif, c'était aussi de toucher effectivement les pays émergents avec une console beaucoup moins chère, avec des jeux un petit peu plus accessibles et tout ça. Mais là, si on peut même pas la Tipiak, ça a vraiment zéro intérêt, quoi.
Ouais, carrément. Alors, j'ai vérifié pour la communication, vu qu'elle sort dans même pas une dizaine de jours. Pour le moment, c'est le néant total, c'est-à-dire que le compte Twitter de Nintendo, il n'en parle pas. La partie news visible du site officiel de Nintendo n'en parle pas non plus. Le seul endroit où on en parle, c'est quand on va sur l'onglet Wii, sur le site officiel de Nintendo France, où là, il mentionne la console et le prix.
Et sur le dojo bar.
Et sur le dojo, évidemment.
C'est comme toujours,
c'est quand même le premier porte-parole de Nintendo, quoi.
Ouais, non, mais d'ailleurs, ils nous ont appelé ce matin. Enfin, moi, j'ai eu un appel de Shigeru ce matin. Il m'a dit, écoute, faut que tu parles de la Wii Mini parce que là, on est vraiment dans la merde.
Ouais.
On sait en japonais, il a fallu que je traduise. C'est pas d'une précision extraordinaire, mais il m'a quand même dit, écoute, on est vraiment dans la merde. Faut que tu parles, faut que tu changes.
En plus, bon. Le cours de yen pour le moment, tout ça.
Sur ces fortes paroles, on va peut-être marquer une deuxième pause musicale. Ouais. Donc, cette fois-ci.
Non, ça sert à rien à dire ce que c'est, de toute façon, vu que ce sera pas ça.
Voilà.
C'est bon, comme te planter dans la police.
On s'en fout. Mais les petits gaga, c'est bien.
Cette fois-ci.
Alors voilà, on envoie la musique, on s'en fout. Donc, tout le monde s'en fout. Alors, cette fois-ci.
Tout le monde.
Cette fois-ci, ça doit être Gusty Garden Cloud. Alors, si c'est pas exactement le titre, je rechangerai, mais normalement, celle-là, je me suis pas jeté dessus. Voilà. Donc là, ça devrait le faire.
En avant.
À tout à l'heure. Et nous voilà de retour. Oh là, faut
tour.
Voilà, de retour.
Tour.
Jouer un mauvais tour.
Tour.
Jouer un mauvais tour. Et nous allons aborder notre rubrique. On refait le monde autour d'une binouze. Vous voulez arrêter les deux oeufs là? J'essaie de présenter une émission de radio, moi, messieurs.
Ça va, on s'en va, hein. Bon zeg, on s'en va.
Ouais,
on
ouais.
Prend la porte, à plus.
Notre rubrique on refait le monde autour d'une binouze qui va être consacrée au Doritos Gate, cette affaire qui a concerné la presse jeux vidéo anglo-saxonne, anglaise en premier lieu, anglo-saxonne de manière générale, et qui est arrivée en France un petit peu plus tard et dont on a parlé même encore relativement récemment.
Oui.
Je vais laisser Méduse faire un petit rappel des faits.
Oui.
Pour qu'on soit tous à peu près d'accord sur de quoi on parle.
Très
et
bien.
On entamera le débat juste après.
Ouais.
Ouais, il sort ses fiches. Alors,
ouais.
Attention.
J'ai pris un de tournesol. 22% de tournesol.
C'est ça que j'entendais depuis tout à l'heure.
Alors,
ce
on va voir.
Pas
est-ce
le
que
sujet.
Est-ce que.
Non,
mais. Non, mais. Vraiment dégueulasse, quoi. Non, mais c'est 8 euros le kilo, ce truc-là. Hein.
C'est salement. Monsieur, ce n'est pas le sujet. Est-ce qu'on pourrait revenir au sujet, s'il vous plaît?
Absolument, mais je suis dans le bar. Laisse-moi un petit peu de liberté, quand même. Bon. Alors, le Doritos Game.
Voilà, ambiance ce soir, quelqu'un veut meubler?
Qu'est-ce que.
Je peux aller en chercher, si tu veux. Hein.
Ça ira. Cérémonie qui s'appelle les. À sa droite, un pack de Mountain Dew, de la limonade qui doit être bien dégueulasse, qui sont à consommer avant le 1er juin 2013, d'après le paquet que j'ai devant moi, et des Doritos. On appelait ça l'affaire Doritos, enfin le Doritos Gate, l'affaire Doritos. Et un monsieur qui s'appelle Robert Lawrence a écrit une tribune sur Eurogamer à ce sujet-là. Alors, qu'a-t-il écrit? Tout d'abord, il faut savoir que les Game Media Awards, donc événement durant lequel a eu lieu la photographie face au paquet de Doritos. Les Games Media Awards sont en fait une cérémonie de récompense sponsorisée. Grosso modo, les plus gros sponsors sont Microsoft, Sony, Nintendo, Electronic Arts, Codemasters, Sega, THQ. Et durant cette cérémonie...
Une belle brochette de vainqueurs.
Une belle brochette de winners, comme on les aime. Et durant cette cérémonie, bah, qu'est-ce qui a invité la presse ? Pourquoi faire pour assister à une remise de prix ? On remet des prix à qui ? Aux journalistes, pour avoir bien fait leur boulot. Et comme chacun le sait, le boulot de journaliste, c'est certainement pas d'être la botte des éditeurs, c'est de faire leur travail des journalistes. Par conséquent, des éditeurs qui récompensent des journalistes, ça pose problème. Et donc ce mec-là, il a écrit un article, Robert Lorenz, sur Eurogamer, et dans lequel il dénonce grosso modo le système, et où il soulève des questions, il dit « bon voilà, mon but c'est pas de m'en prendre à des gens, c'est un petit peu d'essayer de comprendre comment ça marche, et surtout qu'est-ce qu'on fait pour pas être dépendant des éditeurs, parce que il se trouve qu'on est dépendant des éditeurs, on va vous expliquer tout ça après. » Et il se trouve aussi que dans son article, il dénonçait un concours qui avait eu lieu en marge de l'événement Game Media Awards, les éditeurs, enfin Sony, avaient proposé de gagner une PS3 en demandant aux journalistes de tweeter un certain message contenant du texte promotionnel, on va dire. Et c'est aussi ce qu'ils dénoncent. Il y a eu des tweets notamment d'une journaliste qui s'appelle Lauren Wainwright, qui est journaliste mais qui en même temps travaille pour le service marketing un petit peu de Square Enix et qui rédige
des previews pour les jeux de Square Enix pour certains magazines anglais.
Exactement.
Et pas du tout de conflit d'intérêt.
Pas du tout. C'est normal. Moi aussi, si j'étais Square Enix et que je cherchais à vendre mes jeux, ben j'essaierais d'abord d'embaucher un journaliste et de le mettre dans ma poche, quoi. Donc voilà. Et pom.
On a fait un bon tour en tout cas de la partie anglo-saxonne.
De ce qui s'est passé, voilà, la partie anglo-saxonne. Et en gros, on a appelé ça tout simplement Doritos Gate parce que le type, il était avec le journaliste Jeff Kigley, qui est quand même pas personne. C'est quand même le type qui a investigué sur les problèmes qu'a connu la 360 au début avec le Ring of Death, 360 qui ont toutes crashé, et qui quand même, il a quand même bossé pour Kotaku, Game for TV, Game Trailers, hein, je veux dire, c'est pas n'importe qui, et s'est retrouvé dans une situation où Robert Lorenz a écrit une petite chronique donc sur Eurogamer pour dénoncer tout ça. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque Robert Lorenz, à la base, lui, n'est pas journaliste, c'est juste un amateur comme vous et moi, qui tient un podcast d'ailleurs sur le jeu vidéo qui s'appelle Console Venia, si je ne dis pas de bêtises.
C'est tout à fait ça. Et qui est très drôle d'ailleurs.
Ouais, il paraît. Et à qui Eurogamer a proposé de tenir une tribune régulièrement sur le site. Et donc il a commencé en juin à tenir des tribunes. Sa première tribune, c'était pour dire que d'office ça allait faire mal ce qu'il allait dire, qu'il n'était pas là pour faire plaisir à tout le monde.
Sa carrière d'éditorialiste aura quand même été de courte durée parce qu'elle a commencé en juin, elle a fini en octobre.
Ouais, voilà. Et pourquoi est-ce qu'elle a fini en octobre ?
Parce que maintenant faut sortir.
C'est tout. On a dit c'est tout. Et Eurogamer a en fait, contre l'avis de Robert Lorenz, Eurogamer a modifié sa chronique dans laquelle il dénonçait tout ce qu'il y avait autour du Doritos Gate, on va dire, et en supprimant les parties qui concernaient les tweets promotionnels dans lesquels était notamment inculpé, on va employer le mot, était repris un journaliste d'Eurogamer. Voilà.
Il a cité, en fait, Eurogamer a censuré le passage sur Twitter. Parce que la fameuse Wainwright, la journaliste, avait dit elle aussi sur Twitter qu'elle voyait pas où était le problème.
Ouais, voilà.
D'être à la solde de Square Enix et de faire des previews pour les jeux Square Enix, elle voyait pas où était le problème. Que des journalistes participent à un concours en faisant de la promo, elle voyait pas où était le problème non plus. Non, mais elle est quand même culottée, et elle a donc menacé, elle a quand même menacé Eurogamer de poursuites judiciaires, et c'est pour ça que Eurogamer a décidé de pas trop faire de vagues.
Voilà.
Et elle est bonne ta bière.
Ben, c'est pas de la bière, c'est de l'eau pétillante en fait en canette. De l'eau pétillante en canette, quoi.
C'est triste, franchement, c'est super triste. Non,
mais je suis allé au magasin, il me fallait une petite canette à dégoupiller pour avoir le bruit de canette, et j'ai pris le truc le moins cher, c'était de l'eau pétillante. Ça va, c'est potable. Mais alors, attends, c'est pas tout, j'ai aussi une bouteille de Perrier.
Il va nous faire tout l'inventaire de son bar personnel.
Ouais, carrément. Non, c'est que des bonnes choses.
Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc la plus grosse retombée pour l'instant, en tout cas au niveau de la presse anglo-saxonne,
oui.
Ça a surtout été qu'il y a énormément de sites, alors notamment Eurogamer, mais il y en a quelques autres, qui se sont équipés d'une charte.
Oui.
Pour dire nous ne ferons jamais ci, nous ne ferons jamais ça, c'est-à-dire nous n'acceptons pas de cadeaux des éditeurs, nous ne participerons pas aux soirées, les voyages payés par les éditeurs pour essayer 5 minutes de jeu, on n'y va pas, on paye les voyages nous-mêmes, et ainsi de suite.
Donc, qui pose quand même des questions. C'est pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait avant, déjà. Est-ce qu'ils vont s'y tenir? Est-ce que c'est juste un petit discours de façade? Faut savoir qu'en Angleterre, quand même, la culture anglo-saxonne veut que quand il y a des remous dans la presse, ça fait quand même pas mal de bruit. Et du coup, cette petite affaire de Doritos Gate qui pourrait paraître anodine, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Et je crois qu'ils sont allés carrément débroussailler la forêt juste après.
Ça rappelle un petit peu, parce que là, ça concerne que l'Angleterre.
Oui.
Là, c'était dans une moindre mesure, mais bon, c'était un autre exemple, avec Infogrames, qui avait racheté, ou en tout cas, pas en totalité, mais une partie de la chaîne Game One.
Oui, la chaîne Game One, oui, tout à fait.
Qui avait provoqué une vague de départ des animateurs historiques. Donc c'était en 2002 ou 2003, la chaîne avait peut-être 3 ou 4 ans et quelques personnes étaient parties puisqu'il fallait dire du bien des jeux d'Infogrames.
Oui, c'est
ça se rapproche un petit peu de tout ça.
Ça se rapproche un peu de ça, ouais. Ouais. C'est la période où Game One commençait à faire la promo de Godzilla Destroys All the Monster Melee en disant que c'était un excellent jeu. Et...
voilà, magnifique.
Voilà, c'est ça.
Rien que par le titre, t'as compris que c'était une dope, quoi.
Ouais, voilà, non, voilà. Mais c'était genre si vous aimez pas, c'est que vous avez pas compris Godzilla, quoi. Ouais, bah j'ai pas compris Godzilla personnellement. Voilà. Donc...
Mais ça avait été Titus, ils auraient été obligés de dire du bien de Superman 64.
Ouais, c'est...
Ouais, là c'est...
ça fait mal quand même.
Ça peut faire mal.
Je crois qu'ils ont attendu que l'époque Superman soit passée pour racheter la chaîne.
Ouais.
Tout simplement. Et donc c'est vrai que peu après toute cette affaire-là qui a fait quand même pas mal de remous, par chez nous après, mais on en parlera plus tard, c'est vrai qu'il y a quelques sites qui se sont équipés d'une charte.
Alors le problème, je vous rappelle... Ah, on a perdu Méduse.
Non, je suis là.
Ah non, pardon.
Des fois,
il est silencieux.
Ouais.
J'ai entendu ça.
Si ça crée un manque, je peux parler en continu, si tu veux.
Non, c'est rare, t'as bien entendu. Plus basse,
pendant que tu parles, tu peux y aller.
Fais une imitation de Mario, elle allait.
It's me, Wonderful one.
Donc le problème, j'aurais quand même vous rappeler un célèbre proverbe arabe, les mots ne coûtent rien. Alors là, il a gâché tout mon effet, ce mec. C'est un truc sérieux et tout, il n'y a pas moyen. C'est un célèbre proverbe arabe qui dit les mots ne coûtent rien. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce que disait le rédacteur en pois chiche, le rédacteur en chef de Gamekult. Alors, bon, ok, les mecs, ils ont une charte, et alors?
Ouais.
Ouais, une charte, si tu te torches avec.
Exactement. Surtout
ça
les...
sert trop à rien.
Enfin, moi, j'ai parcouru deux chartes et j'ai relevé quelques points qui, quand même, pouvaient prêter à confusion. J'ai pris la charte de Polygon, qui est un site, je sais pas depuis quand il existe, moi, je l'ai découvert seulement il y a quelques mois. Et c'est un site qui, quand même, qui fonctionne bien, vu qu'ils ont quand même réussi récemment à avoir notamment une interview de Miyamoto, qui était en tournée mondiale de promotion pour Luigi's Mansion. Et voilà, donc ils se sont munis d'une site le 31 octobre, donc grosso modo dans les deux semaines qui ont suivi l'affaire Doritos. Et en effet, ils disent que dedans, ils acceptent aucun voyage. Donc, ah oui, donc, petite précision pour les voyages quand même. Souvent, quand un gros jeu est présenté, qu'il va y avoir une grosse version jouable, on pense notamment à Halo 4, ce qui se passe, c'est que tout simplement, on envoie des invitations aux journalistes, et puis on leur dit, voilà, on vous offre l'avion, l'hôtel, vous venez chez nous jouer, et puis vous pondez votre article, et voilà. Et c'est évidemment ça qui crée parfois des petites confusions et des doutes.
Il n'y a pas que ça. Hein.
Ouais, il n'y a pas que ça.
Ça fait partie du problème, mais il n'y a pas que ça.
Ouais, c'est dans le package. Et donc, notamment par rapport à la conduite à adopter, la charte de Polygon précise que les journalistes ne doivent accepter ni voyage, ni chambre d'hôtel, etc. Lorsqu'il s'agit de couvrir un événement ou un jeu, et que si jamais un jeu a été testé dans des conditions d'un événement sponsorisé, on va dire, par l'éditeur, alors ça doit être mentionné dans la review. Et il est aussi indiqué, mais là ça fait quand même rigoler, que qu'il est interdit aux journalistes, aux rédacteurs d'accepter des dons, y compris de la bouffe et des boissons.
Ouais, quand même.
Sauf si la valeur ne dépasse pas 50 euros. Voilà. Donc d'accord. Ça veut dire qu'en gros, si tu veux bouffer ou boire, qu'on t'offre là-bas, je sais pas, moi j'imagine le journaliste européen qui part au fond du Texas essayer un jeu chez Retro Studio. Là-bas, on lui offre la bouffe et la nourriture et il dit ah non, désolé, faut que je sorte, que j'aille chercher à la station essence mon sandwich parce que j'ai pas le droit.
Ouais,
la station essence, elle a 60 pornes.
Seulement. Polygon, c'est un site qui a coquiné avec des partenaires, ou je sais plus quel genre de relation ils ont, mais ils sont partenaires avec The Verge. qui est un site techno généraliste qui parle de téléphone, tablette, etc.
Oui.
Qui, à mon avis, est plutôt sérieux dans son traitement. Après, est-ce que tout ce qui est justement en relation avec les éditeurs, avec cette charte,
ça c'est toujours ambivalent et ambigu. Hein.
Ça c'est certain.
Extrêmement. Et dans le charte, il parle aussi de publicité. Il mentionne quelque chose bon qui est évidemment correct, c'est que donc ce qui fait vivre le site, c'est-à-dire la publicité, grosso modo, il n'y a pas que ça, on en parlera après aussi, qu'évidemment ils ont, enfin, ils ne commenteront jamais les publicités qu'ils mettront sur leur propre site, que les publicitaires ne leur demandent pas de couvrir des gens en particulier. Alors j'ai trouvé ça particulier parce que dans une charte, quand tu écris une charte, c'est généralement pour dire je veux bien faire ça, je veux pas faire ça, mais tu n'écris pas ce que les autres vont faire ou ne pas faire. C'est-à-dire que dans leur charte, quand ils écrivent que les régies publicitaires ne leur demanderont pas de couvrir certains produits, je vois pas comment ils peuvent savoir à l'avance qu'on va pas leur demander de couvrir certains produits, quoi. Alors peut-être qu'ils vont accepter ou refuser.
Je pense qu'ils peuvent quand même refuser certaines. Je pense ça arrive régulièrement, c'est pas sur des. Sur jeuxvideo.com ou des trucs comme ça, tu sais, t'as souvent un encart énorme, c'est-à-dire que le site est aux couleurs du jeu X pendant une semaine parce que c'est sa sortie.
Ouais, ça se fait assez régulièrement. Ça se fait quand même assez régulièrement.
Et je pense simplement qu'un habillage complet comme ça du site, ils peuvent éventuellement le refuser en disant écoutez, non, le jeu là. On lui a mis une sale note, ouais. on va pas faire la promo, quoi. Après, est-ce que les mecs sont capables de s'asseoir sur le pognon que ça génère? C'est pas gagné, parce que ces sites-là ne vivent que de la publicité.
À peu près, ouais. À peu près. Et je sais pas toi, Mortal, si t'avais relevé quelque chose dans d'autres chartes.
Moi j'avais vu sur No Life, alors je sais pas si vous regardez No Life tous les deux peut-être, alors Medu c'était en Belgique donc tu
ouais,
non,
pas. Moi j'ai pas, ça a pas encore été inventé en Belgique la télévision en fait. On a internet, c'est déjà pas mal.
Ils sont encore à la radio.
Ouais.
On y est aussi à la radio, faut pas se plaindre.
Ouais.
Donc Zegema, tu regardes de temps en temps No Life, tu connais moins No Life.
J'ai changé d'opérateur, je l'avais sur SFR, j'ai changé, je l'ai plus. Mais je regarde plus, non, malheureusement, je regardais avant.
Voilà, bon, moi je regarde toujours de temps en temps. Et en fait, dans leur critique, alors No Life, ils sont français, donc ils sont un petit peu éloignés du truc, mais ils ont diffusé deux débats d'une heure et demie, je crois, sur le Doritos Gate. Alors malheureusement, il n'y a que des journalistes JV à l'intérieur. Il n'y a pas de spectateurs ou de lecteurs pour les contredire. Alors dans le deuxième débat, ils ont relevé un certain nombre de questions qui leur avaient été posées sur les forums, sur Twitter et autres pour réagir, on dira, avec leur public. Mais ça reste quand même avec leur public. Il n'y avait pas beaucoup de contradicteurs, on va dire.
Et ça reste un petit monde, oui.
Ça reste un petit monde. Et eux, à la fin de leur critique, maintenant, ils précisent dans quelles conditions ils ont testé leur jeu. C'est-à-dire, est-ce qu'ils l'ont testé sur des versions review envoyées par des éditeurs, sur des versions commerciales qu'ils ont envoyées par les éditeurs, versions commerciales qu'ils ont achetées, ainsi de suite. Alors c'est pas mal, sauf que moi j'en ai vu apparaître un il y a pas longtemps, c'était testé sur une version collector envoyée par l'éditeur.
Donc ça, c'est pas mal ça.
Bah, c'est sympa de la part de l'éditeur, mais c'est vrai que pour faire un test de jeu, sachant que eux ils te disent pas que le collector il est super bien.
Ouais.
Est-ce que ça a vraiment un intérêt pour l'éditeur à part essayer de se faire mousser?
Ouais, voilà. Ouais, de faire genre, on dépense du pognon en pub, on veut carrément les éditions collector. Ouais, non, aucun intérêt. À moins que la version collector soit différente ou qu'elle contienne, parce qu'il y a des éditions collector parfois qui contiennent des armes en plus, tu vois, ou genre quand tu précommandes, t'as tel costume à la con, ou je sais pas quoi.
Ou voilà, les armes.
Qu'ils avaient ça, simplement. Mais ça se fait,
c'est quand même super accessoire.
Mais alors,
le plus gros problème en réalité, c'était surtout enfin le problème qui était soulevé par
Robert Lawrence.
À tes souhaits.
Le plus gros problème, c'était surtout la dépendance des journalistes JV vis-à-vis des éditeurs, c'est-à-dire que les mecs ils vivent de la publicité, donc il faut qu'ils publient la news avant tout le monde, il faut qu'ils publient la critique avant tout le monde ou en même temps que tout le monde, sinon ils perdent des recettes publicitaires parce que simplement ils perdent des lecteurs.
Ouais.
C'est aussi bête que ça. Donc ils sont quand même ultra dépendants des éditeurs quoi qu'il arrive, c'est-à-dire qu'ils sont dépendants des images que leur envoient les éditeurs, des vidéos que leur envoient les éditeurs et ainsi de suite.
Chose qui se répercute évidemment sur le lectorat, vu qu'on est aussi dépendant de... Enfin, ce qui est logique quelque part, hein. Je veux dire, on montre pas la scène de fin d'un film avant de l'avoir tourné, tu vois. Donc forcément il y a un moment où la communication, faut bien qu'elle démarre de quelque part. Mais après c'est vrai que c'est quand même ultra cadenassé, particulièrement pour les tests de jeu où il y a des NDA, donc des contrats qui interdisent de pouvoir publier quoi que ce soit sur le jeu avant une telle date. Il y a des tests qui sont faits dans des conditions imposées par l'éditeur, etc. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour une rédaction qui vit majoritairement, enfin où grosso modo la première source de revenus de la publicité, c'est souvent des publicités de jeux vidéo, donc qui sont donc dépendants des éditeurs, et où la deuxième source de revenus, on va dire, mais c'est pas vraiment une source de revenus, c'est tout ce qui est voyage, etc., pour aller tester les jeux. Je veux dire la rédaction qui dit ok, moi je veux pas être à la merci des éditeurs, je paye moi-même mon avion, moi-même mon hôtel, je sais pas combien de temps elle va survivre, quoi. Donc sur tous les niveaux d'activité, ils sont quelque part aux mains des éditeurs, parce que c'est de là que vient le pognon. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire.
Voilà. C'est bon, bravo, c'est déjà bon.
Bravo, professionnel. Félicitations.
Très professionnel. Je suis malade, j'ai une excuse.
Moi, j'allais faire une espèce de petite remarque, c'est que le journalisme jeu vidéo est quand même encore assez jeune. Mine de rien.
Mais il a quoi? Il a.
Quand je dis jeune, il a 20-25 ans.
25 ans, hein.
Tu compares ça du journalisme sportif qui a plus d'un siècle, le journalisme tout court, pareil. Des trucs un petit peu plus confidentiels, on va dire, les sports auto, les machins. C'est tenu par des grands éditeurs. Enfin, en tout cas, les petits journalistes ou les petites équipes, tu te demandes comment ils peuvent faire pour survivre s'ils n'ont pas ce genre de...
Bah, les petites rédactions indépendantes.
Les petites rédactions indépendantes, voilà.
À part effectivement, si les mecs sont très connus. D'ailleurs, je pense que, par exemple, bon, Game Cult appartient à un
grand
groupe.
C'est ce que j'allais dire.
Mais ils appartiennent à un grand groupe quand même, donc c'est pas...
Ouais, si,
mais ils étaient indépendants au début, mais alors je sais plus les conditions dans lesquelles ça a été fait, mais ils sont passés de petits indépendants, de deux personnes, ils étaient dans le 15e, ils se sont fait racheter...
Voilà, mais voilà. Tu vois, le problème que ça pose pour eux, par exemple, c'est que jusqu'à présent, la maison mère leur demande pas de compte, je veux dire, ils rapportent le pognon qu'ils rapportent, et puis c'est tout.
C'est ça.
Mais le fait est, aujourd'hui, eux, ils peuvent se permettre de pousser un coup de gueule. C'est ce qu'ils avaient fait d'ailleurs en 2005 ou 2006. Ils avaient été blacklistés par je sais plus quel éditeur.
Alors, ils ont été blacklistés
par
Sony pour Heavy Rain. Mais c'était pas en 2005-2006, c'était plus tard, évidemment.
C'était beaucoup plus tard, ouais.
Ils ont été blacklistés par Heavy Rain parce que la note était mauvaise. Et il y avait une campagne de pub sur Gamekult. Il y avait une pub pour Heavy Rain, justement. Et Sony n'a pas encaissé que.
Ils mettent une salle.
Voilà, du coup, ils ont demandé le retrait immédiat des pubs.
C'était amplement mérité.
Évidemment, voilà. Et encore, c'était peut-être généreux.
Bon, c'est très généreux.
Je n'ai pas joué au jeu, je ne me permettrai pas. Mais bon.
Pour un film, c'est, ouais. Il aurait dû voir plus, mais pour un jeu.
Pour un film, c'est pas mal, quoi.
C'est un repart en cacahuète.
Ouais.
Non, mais voilà, ils ont été blacklistés de nombreuses reprises. Mais je veux dire, eux, ils ont aujourd'hui, on va dire, la puissance médiatique et l'aura et l'écoute nécessaire auprès du public pour être capable de pousser un coup de gueule et ne pas être ignoré.
Ouais, exactement. Il y a surtout qu'en appartenant à CBS Group, CBS Group, c'est eux qui possèdent Metacritic. Donc voilà.
C'est pas terrible.
Donc voilà. Non, mais je veux dire, on a tout compris, quoi. Sachant que Metacritic, c'est un petit peu Metacritic a malheureusement un pouvoir de par l'importance qu'il a acquis. Il a un pouvoir sur la vie de certains studios, de certaines équipes de développement. On sait qu'il y a, je sais plus pour quel jeu.
Il y a des primes à la Metacritic, je crois. Il y a des primes Metacritic qui ont été faites.
Ouais, voilà. Et à l'inverse, s'il y a certains jeux qui n'atteignent pas un certain score, les gens ils se font virer. Et donc il y a des jeux qui devaient atteindre une histoire de. Je me demande si c'était pas pour un. Ouais, je sais vraiment plus, mais c'est pour un jeu à gros budget qui est sorti ces trois dernières années. Il fallait qu'il atteigne une histoire de 87 ou 88. Et il a atteint un point en dessous. Et les gens se sont fait jarter parce que dans les contrats avec les gens, il était indiqué, voilà, si le jeu n'atteint pas ce score, à plus sous le bus.
C'est violent.
C'est quand même assez rude. Et à l'inverse, quand ça dépasse le score, il y a des primes, quoi, tout simplement.
Mais c'est quand même un des rares cas dans lequel t'as le cas inverse, c'est-à-dire que c'est les journalistes qui tiennent les développeurs par les... Enfin, ouais. On a un cas bizarre, c'est-à-dire que les développeurs tiennent les journalistes par les couilles, les journalistes tiennent les développeurs par les couilles.
Ouais. Non, en fait, c'est les éditeurs qui tiennent les journalistes par les couilles, qui tiennent les développeurs
par les couilles.
Qui tiennent des développeurs par les couilles.
C'est quand même, super curieux. Ouais,
c'est un sacré gangbang de consanguin.
Comme tu y vas.
Disons-le crûment. Disons-le crûment.
Et tu le dis tellement bien crûment. On va peut-être se quitter, parce que là, ça fait quand même un petit moment qu'on en discute.
Ouais.
Je vais remercier tous nos auditeurs, je vais m'excuser pour le tout petit ennui technique qu'on a eu tout à l'heure. Alors en fait, vous ne l'avez pas entendu, mais on a été coupé pendant quelques secondes, je sais pas exactement combien. Pas grand chose, hein, ça a dû genre 2 ou 3 secondes qu'on a été complètement coupé. Donc, je suis vraiment désolé, ça. Je sais pas pourquoi ça a sauté.
Tu seras lâché.
Sur la place publique.
Voilà, vous nous retrouverez en podcast normalement jeudi, le temps que je fasse le montage et tout ça. Et en attendant, on va se quitter avec la musique. Je sais plus ce que j'ai prévu.
Et le prochain direct est prévu pour le
mercredi 3 avril, si je dis pas de bêtises.
Tout ça. Voilà. Tu sais
mercredi
que je suis pas
3
là,
avril à 21h. Je croyais que tu étais pas là le mardi 2 avril.
Ah non, je suis pas là le mardi, mais le mercredi non plus. On va arranger ça, on sait pas quand ce sera disponible.
On va arranger tout ça.
Dans la prochaine partie, on s'attardera, on viendra plus sur les moyens de financement, enfin sur l'indépendance globalement des journalistes jeux vidéo, et on s'attardera aussi au cas de nos frontières à nous, au cas francophone, puisque le Doritos Gate, même si on en a que très peu parlé sur les gros sites francophones, ça a été quand même un petit peu repris par... un peu plus modeste, et surtout ça a continué à faire du bruit et de l'écho auprès des plus gros aussi s'exprimer par rapport à ça, par rapport à leurs pratiques. On s'attardera volontiers là-dessus la prochaine fois.
Voilà, donc on va se quitter. Je sais plus ce que j'ai balancé pour se quitter, mais c'est pas grave.
Une pomme.
C'est possible.
Une tronçonneuse.
C'est possible. Alors avant, on va quand même respecter notre grande tradition, donc le mot de la fin. Alors Zegema, le mot de la fin.
Salami.
Très bon.
Méduse, le mot de la fin.
Moi, ce sera une phrase de la fin. C'est le moment, le Dorito, c'est de la merde. Mais j'en rebouffe un quand même.
Banane.
D'accord, moi je vais vous dire crêpe et à la prochaine fois.